Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Josiane Lévesque, enseignante, a écopé de 6 ans de prison la semaine dernière. Une décision rendue par le juge dans le dossier Serge Simon. Une sentence quand même exemplaire. Elle a abusé sexuellement d'un de ses élèves qui avait 8 ans. Elle était tombée en amour avec cet enfant-là. Elle a posé des gestes graves sur une longue période de temps. J'ai parlé avec sa mère, Camille. L'enregistrement a été fait hier. Comprendrez qu'il faut respecter la confidentialité. Mais la mère a un message à livrer. Et c'est important parce que c'est un message qui s'adresse, bien sûr, aux parents qui sont à l'écoute, mais aux enfants aussi, parce que le juge a souligné dans sa décision le caractère héroïque de l'enfant qui a dénoncé ce qu'il a vécu. Même très jeune, il a été capable de dire à ses parents ce qu'il se passait et qu'il n'était pas bien dans ça. Et la première question, bien sûr, que j'ai posée à Camille, on va l'appeler comme ça pour les besoins de l'entrevue, pourquoi elle tenait à nous parler?
Écoutez, M. Arcan, cette situation, je veux dire, elle a duré 2 ans pour mon enfant. Et pour nous, depuis le dévoilement, je veux dire, on était dans des procédures de la cour pendant 2 ans. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que je veux m'adresser aux parents. Et j'ai des choses à leur dire par rapport à tout ça parce que c'est vraiment difficile en tant que parent de passer à travers ça. Et on veut lâcher. On veut, tu sais, à chaque fois qu'ils nous remettent une date, on veut dire OK, c'est fini, là, moi je suis plus capable. Mais il faut persister parce qu'il faut comprendre. Notre enfant a été abusé pendant 2 ans. Alors moi, je suis en train de lui montrer un exemple. Et je dois persister avec la cour puis aller jusqu'au bout. Parce que, Monsieur Arcan, on peut pas croire un enfant et pas agir. C'est impossible. Parce que quand on n'agit pas, c'est comme si on l'a pas cru. C'est dans cette situation-là, il a été cru dès le départ. Pourquoi? Parce qu'il disait des affaires qu'il pouvait pas savoir selon son âge.
Donnez-nous des exemples. Quand il vous en a parlé pour la première fois, qu'est-ce qu'il vous a dit, puis pourquoi vous l'avez cru tout de suite?
OK. Alors, je ne vais pas répéter toute l'histoire, mais comme on le sait dans les nouvelles, c'était son professeur qui est devenu son tuteur. Donc, elle s'est rapprochée de la famille et est devenue une amie de la famille pendant ces 2 ans-là, parce qu'elle amenait son enfant ici. Et là, la pandémie a fait qu'il y a eu une distance entre mon fils et madame, et donc, mon fils il est venu me voir et il m'a demandé de plus faire du tutorat. Et là, moi, je pensais que, OK, l'été, tu sais, c'est le début de l'été, il veut pas repartir dans le tutorat, il veut avoir un congé. Tu sais, je pensais que c'était de la fatigue, OK? Mm-hmm. Donc, j'en ai parlé avec Mme Lévesque. Puis là, elle me disait, ah, peut-être que, tu sais, il a vieilli, peut-être que ses besoins changent, peut-être que, tu sais, fait qu'elle me donnait plein d'excuses. Et donc là, quand elle venait se baigner, il était méchant avec, mais c'est pas un enfant méchant. Alors, il lui disait par exemple, ah, oh, t'es pas fine, ou elle disait une joke, puis disait, ta joke est plate. Mais jamais qu'il ferait ça, c'est impoli. Alors là, moi, je me retournais toujours, puis je disais, ben voyons, pourquoi tu lui parles comme ça? Alors, quand elle était pas là, une journée, je lui dis, écoute, si tu veux pas de tutorat, tu vas me le dire, mais tu manqueras pas de respect à la madame qui t'a aidé depuis 2 ans. Ce que je vais te demander, c'est d'être franc avec moi aujourd'hui, puis si c'est le cas, tu arrêteras le tutorat, mais tu dois comprendre, elle va continuer à être mon amie. Ça fait 2 ans qu'elle vient ici avec sa fille, on est devenus amis. Donc, faut que tu sois poli avec elle. Elle n'est pas obligée de te donner du tutorat, mais sois gentil, elle t'a rien fait de mal. Puis là, il me dit, maman, je dis quoi? Il me dit, j'aime pas comment elle m'embrasse sur la bouche avec la langue. Est-ce que vous avez déjà entendu un cœur craquer en deux? Le mien est craqué en deux. Monsieur Arcan, J'ai dit à mon fils, mais de quoi tu parles? Puis là, il me dit, quand elle fait du tutorat, quand elle est seule avec moi, elle m'embrasse sur la bouche avec la langue. Là, je lui ai dit, écoute, là, je veux que tu me dises tout ce qui est arrivé. Parce qu'habituellement, là, quand un enfant, il parle d'abus sexuel, puis il vous dit quelque chose comme ça, sachez que il y a d'autres gestes qui ont suivi. Parce que c'est sûr qu'une personne s'arrête pas à embrasser un enfant sur la bouche. S'il a osé faire ce bout-là, il est allé plus loin. OK. Alors là, je lui dis, écoute, t'as la semaine pour m'en parler, prends ton temps, puis dis-moi qu'est-ce que tu peux. Fait que là, au compte-gouttes, M. Arcan, il allait dans la douche, il sortait de la douche, il disait, ah, tu sais quoi, elle a déjà mis sa main dans mon pantalon, sur mon pénis, elle faisait des massages, puis là, je disais, ben comment? Il m'y met. OK? Et quoi d'autre? Oui, mais des fois, elle me faisait enlever tous mes vêtements, puis elle le faisait aussi. Puis tu sais, à un moment donné, elle est allée, tu sais, à la pharmacie, Jean Coutu, je dis, oui, elle est allée chercher un liquide transparent. J'ai dit, ah oui, puis qu'est-ce qu'elle a fait avec? Elle l'a mis sur mon pénis, puis elle a flatté mon pénis, puis tu sais, elle allait trop vite quand elle faisait ça, tu sais, parce que c'était trop, ça me faisait mal des fois. Mais je comprends, c'est un enfant, il n'est même pas à sa puberté, M. Arcan. Il est tout petit, il a 8 ans. Tout ça pour vous dire que cet élément-là, moi, j'ai jamais informé mon enfant de 8 ans qu'il vendait du lubrifiant à la pharmacie.
Mais quand il vous raconte ça, là, votre réaction première, c'est quoi? D'aller la confronter, d'appeler la police, vous pensez à quoi?
Non. Alors moi, ma réaction première, parce que j'ai souvent vu des cas qui sont pas crus, des cas que ça tombe à l'eau, j'ai dit, là, il va me raconter son histoire, puis on va amener ça à la police. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'au compte-goutte, il m'a tout dit. Tous les attouchements que vous avez vus là, dans le jugement, les fellations, toutes ces affaires-là, il m'a tout dit ça, qu'il devait mettre sa main dans son vagin, il m'a tout dit ça. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est quand il a dit cette phrase, parce qu'il surlavait ses mains. Puis là, on n'était pas dans une période de COVID, c'était le début de la COVID. Il surlavait ses mains depuis un an et demi, là. Puis on n'arrêtait pas de dire, t'as de la sécheresse sur les mains, lave-toi-moi les miens. Mains, on essayait de calmer ça. Mais nous, on pensait, parce qu'à demander au médecin, il nous disait, mais vous savez, votre fils a un TDA, ça se peut qu'il développe des tocs, de l'anxiété, fait qu'il pourrait se surlaver les mains, tout ça. Alors, jamais qu'on a pensé ça. Et là, il m'a dit, maman, je me surlave les mains, puis je prends souvent des douches, parce que je me sens sale. Puis là, je disais, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ben par exemple, mes mains, je veux enlever cette sensation de mouiller sur mes doigts, le mouiller de son vagin. Monsieur Arcan, il sait pas qu'un vagin peut être mouillé. Je m'excuse pour les termes, mais on parle d'abus sexuel. Il sait pas ça. Écoutez, quand il a fini la semaine, je lui ai dit, écoute, maman, elle a pris une décision avec papa d'aller parler au professeur, puis de voir qu'est-ce qu'elle va nous dire. Et là, il m'a dit, mais ça va rien donner, parce qu'elle va pas te le dire. Elle m'a déjà dit que j'ai pas le droit de te le dire, ni à toi, ni à papa, que si je le disais, elle pourrait aller en prison, puis elle pourrait perdre son enfant. J'ai dit, d'accord, mais maman, c'est une adulte, et je vais aller voir cette personne-là qui est devenue mon amie, et je vais lui demander la question. Il dit, d'accord. Fait que là, je pars. Je l'invite au restaurant. On va au restaurant, on a un souper et on se parle comme si rien n'était.
Mais comment vous l'avez confronté, là, c'est ça? Comment vous avez...
Ben, à la fin de tout ça, je lui ai dit, viens dehors. Non, elle me dit, j'ai dit, ben si je pouvais te dire pourquoi il est fâché, elle dit, je donnerais n'importe quoi. Je dis, ben viens, on va payer la facture, je vais te le dire. Fait que je paye la facture, on s'en va dans l'auto, puis tout calmement, là, comme je vous parle maintenant, elle s'assoit dans l'auto, je lui dis, puis je crie pas, là, doucement, je lui dis... Madame Lévesque, est-ce que t'as embrassé mon fils avec la langue sur la bouche? Là, elle met ses mains sur sa figure. Je lui dis, est-ce que tu l'as masturbé? Est-ce que tu lui as fait des fellations? Est-ce que tu lui as demandé de mettre ses mains dans ton vagin et de pénétrer ton vagin? Alors, détaillé comme ça, je lui dis, puis tout d'un coup, elle me répond oui. Écoute, là, je lui dis, oui, qu'est-ce que tu veux dire? Oui. c'est quoi? Je t'ai demandé de faire du tutorat avec mon fils et maintenant tu me dis que tu as fait des actes sexuels avec lui. Je t'ai jamais demandé de faire de l'éducation sexuelle avec lui, encore moins de l'abuser sexuellement.
Mais est-ce qu'elle cherche à se défendre, à expliquer le pourquoi? Est-ce qu'elle dit quelque chose?
Oui, elle me dit, M. Arcand me dit, je vais essayer d'expliquer l'inexplicable, mais faut que tu comprennes, j'étais amoureuse de lui. C'est mon âme sœur. J'ai jamais rencontré quelqu'un dans ma vie que j'ai aimé autant. Et quand il m'a dit qu'il voulait plus être avec moi, qu'il voulait plus que les gestes se poursuivent, j'ai voulu me suicider. Monsieur Arcand, j'ai dit, excuse-moi. Parce que là, on parle d'une madame qui vient chez nous tout le temps puis qui a toute sa tête, qui enseigne à l'école privée, qui a toute sa tête. Mais là, devant moi, j'ai quelqu'un qui parle comme une pédophile. Et là, je comprends pas, parce qu'elle a aucune maladie santé mentale diagnostiquée, cette femme.
Quand au procès, elle a parlé de détresse puis de dépression, le juge a pas tenu compte de ça.
Non.
Avez-vous senti que... Et là, c'est vrai qu'elle a reconnu les faits, elle a plaidé coupable. Avez-vous senti qu'il y avait quand même de la manipulation encore pour essayer d'aller chercher une sentence de prison moins sévère?
Oui. Parce que elle se victimisait dans son discours. Puis elle cherchait à dire comme quoi, ben tu sais, elle a toujours été déprimée, elle a eu des difficultés. Oui, mais il reste que elle a quand même réussi à scolariser, à avoir une compagnie, à se faire engager par une école privée, à avoir un enfant, à être dans un couple, à se séparer de ce couple-là. Elle a fonctionné, cette femme-là, plus qu'elle n'a pas fonctionné. Mais elle a mis l'accent sur les fois où elle fonctionnait pas. Puis là, elle a même dit au juge qu'elle était amoureuse de cet enfant, puis qu'elle voyait plus son âge.
Mais c'est extraordinaire, là, comme extraordinaire dans le sens que c'est complètement fou, là. Mais de savoir que cette femme-là, qui a une position d'autorité, donc une enseignante, a posé des gestes d'agression sexuelle sur votre enfant alors qu'elle est mère d'un enfant qui a le même âge que le vôtre.
Presque, oui.
Presque.
Oui, parce que moi, j'ai d'autres enfants aussi. Donc, elle voit la différence d'âge entre tous les enfants quand elle vient ici. Mon adolescent, pensais-tu que c'était une personne âgée? Voyons donc. Elle savait que mon adolescent, c'était un adolescent. Elle savait que mon fils, celui qu'elle a abusé, c'était un enfant parce que l'année d'avant, elle l'enseignait dans une classe avec d'autres petits bouts. Vous savez, mon fils, quand il m'a demandé de lire une lettre au juge, il m'a donné, il est tellement intelligent cet enfant-là, il m'a donné la photo scolaire avec elle dessus. Tu sais, avec tous les petits-enfants. Il dit, tu sais, maman, quand elle va dire au juge là, qu'elle connaît pas mon âge, montre au juge ma photo, regarde, elle connaît pas l'âge de toute sa classe. On a toute la même grandeur, maman.
Le juge a dit que votre fils avait été, évidemment, l'élément clé par la clarté de ses propos, par son courage, je reprends ses mots. Votre fils a permis l'arrestation et la condamnation de cette femme.
Oui.
D'abord, comment il va aujourd'hui? Comment, après toutes ces étapes, là, la police, le procès, comment il va, votre gars?
Écoutez, mon fils, là, c'est quelqu'un, malgré ses difficultés académiques, là, c'est quelqu'un qui est très créatif, OK? Et il essaye de trouver le bon dans chaque opportunité. Fait que le jour où on est allé voir la police, puis c'était stressant parce qu'il devait faire une vidéo pour l'entente multi, ben il a stressé, il est allé, il a dit, je lui ai dit, regarde, tu vas parler comme une conversation, puis dis-lui ce que tu m'as dit. Alors il a fait juste ça. Mais à la fin, tu sais, il a demandé, je peux-tu prendre une photo de ta badge, je peux-tu voir ton gun. Tu sais, il reste que c'est un enfant, OK? Et c'est ça. Cette innocence d'enfant-là, elle n'y a pas enlevé encore. Elle n'a pas réussi à y enlever. Et c'est ça que j'ai eu peur. Parce qu'au début, quand tu me l'as dit, elle a peut-être initié à des comportements sexuels, mais elle n'a pas pris son innocence. Parce qu'il me l'a demandé, « Maman, est-ce que je suis encore vierge? » Parce qu'il commence à avoir des cours de sexualité à l'école. « Est-ce que je suis encore vierge? » J'ai dit, « De l'abus ne compte pas. Ce n'est pas une première relation sexuelle, c'est de l'abus. Ça ne compte pas. »
Je veux vous poser quelques questions, là, évidemment, qui s'imposent. La première, Avez-vous l'impression qu'elle a développé avec vous cette relation d'amitié, qu'elle s'est immiscée dans votre famille, c'est devenu votre amie, elle est allée se baigner chez vous, que tout ça faisait partie d'une stratégie pour être avec votre enfant, puis être avec votre enfant le plus longtemps et le plus souvent possible?
Oui, je vais vous le dire pourquoi. À l'école, le premier signe d'alarme, c'est quand elle m'a dit qu'il y avait un TDA, il a été évalué, il était en deuxième année. Elle a été voir la directrice, elle a dit... Je monte en troisième année, parce que c'est ça, des fois, ils changent d'année. Quand je vais en troisième année, est-ce que je peux le revoir dans ma classe? Et la directrice lui a dit, je pense que tu es trop proche de cet enfant, alors je vais le mettre avec un autre prof. Et moi, entre-temps, avec mon mari, on a décidé de le changer d'école parce qu'il y avait plus de services en école publique de quartier, vous comprenez? Mm-hmm. Donc là, quand j'annonce que je le change d'école, elle me dit... Je reste disponible pour du tutorat au besoin. Fait que là, elle me dit, vous savez, je connais exactement ses difficultés, je sais vraiment comment lui enseigner. Puis elle n'arrêtait pas de lui répéter ça. Donc, lui, il était en conflit de loyauté, même avec des nouveaux profs, parce qu'il se disait, je comprends juste la façon de Madame Lévesque. Madame Lévesque, elle a la best façon de m'apprendre. Elle m'a compris finalement.
Une question un peu. Ouais, oui, question un peu bête. Est-ce que c'était une bonne enseignante? Est-ce que c'était un bon prof?
Oui, mais c'est ça que je veux vous dire. C'est une excellente prof. Tout le monde l'aimait. Ses collègues là sont perturbés aujourd'hui. Et j'ai encore des textos de ses collègues qui me disent « j'y crois pas encore ». La direction est perturbée. Il y a personne qui croit ça. C'était un excellent prof. Mais elle a utilisé ça et... Elle m'a rencontré dans un parc, faut que je vous dise cette partie-là, elle m'a rencontré dans un parc l'été avant que je change d'école, puis elle a dit, amène-le, puis là on jase, puis elle a dit, je veux vraiment faire du tutorat, je veux vraiment l'aider à débuter son, je peux pas l'abandonner, je me sens comme si je l'abandonne, mais finalement c'est elle qui s'est abandonnée, je pense, et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris en tente, mais vous savez que la première fois qu'elle a vu mon fils à la bibliothèque, tu sais, au mois de, je sais pas, septembre, il a commencé l'école. Fait autour de la fin de septembre, qu'est-ce qu'elle lui a dit? À chaque fois que je regarde ta photo que j'ai prise dans le parc, je suis mouillée. Écoute, c'est-tu de la planification, ça?
Quels sont
ça
vos.
Non,
ça n'a pas de sens certain, là. Quels sont vos sentiments à l'égard de Josiane Lévesque?
Écoutez, excusez-moi, ça me rend ému. Parce que. J'ai vraiment aimé cette personne en tant que professeur. Et j'ai vraiment aimé cette personne-là en tant qu'ami. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était pas mon ami. Ça, c'était juste une façade. C'était un moyen d'abuser mon enfant. Excusez-moi, M. Arcan. Alors, aujourd'hui, je me sens trahi. Et je peux pas avoir de l'amour pour quelqu'un qui m'a trahi. Mais je vais vous dire que c'est plus difficile d'apprendre à pas aimer quelqu'un que c'est d'aimer quelqu'un, vous comprenez? Mmh. Parce que là, moi, je dois défaire dans ma tête toutes les bonnes actions qu'elle a fait réellement devant moi. Parce que maintenant, je connais ce qu'elle a fait derrière. Et c'est inacceptable.
J'ai une autre question, si vous me permettez.
Allez-y.
Je ne veux pas préciser la nature de votre emploi, mais vous avez un emploi qui vous donne de l'autorité sur les autres. Le fait que Josiane Lévesque est une enseignante, elle est non seulement adulte, mais elle a une autorité sur votre fils. Elle a abusé de ce pouvoir-là, puis le juge l'a reconnu.
Oui.
Ça vient comme amplifier, j'ai l'impression.
Écoutez.
La colère, parce que c'est quelqu'un qui s'est servi de son statut.
Exact.
De sa proximité avec l'enfant, puis d'un pouvoir qu'elle exerce auprès de l'enfant.
Exact. Donc, tu sais, moi, je suis un code d'éthique, un code professionnel, et ça n'a pas de sens. Ça c'est venu m'insulter en tant que professionnel même. Tu sais, mis à part ce qu'elle a fait à mon fils, je me suis dit, comment utiliser son rôle pour abuser d'un enfant? Ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et ce que je veux dire aux familles, c'est que il faut faire confiance aux professeurs, sinon on peut pas travailler. Il faudrait tous travailler de la maison puis faire du homeschooling. Donc, il faut leur faire confiance. Il faut faire confiance à des pompiers. Il faut faire confiance à la police, à des avocats, à des médecins. Alors, c'est normal de faire confiance. Ce qui est pas normal, c'est qu'on utilise notre rôle pour abuser d'enfants. Mais je vais vous dire, je pense qu'il y a plus de pédophiles dans des écoles qu'on pense, parce que s'il n'y a pas un lieu où il y a beaucoup d'enfants, alors s'ils veulent avoir accès à des enfants, c'est bien le lieu. Mais ce que je veux vous dire, le message aux pédophiles, c'est les parents, ils ont pas peur, on va se battre, puis vous allez avoir du 6 ans. Parce que si des juges comme M. Simon, comme juge Simon, qui regarde ce dossier-là de mon fils, il a été capable de dire non, non. Juste le fait qu'elle a utilisé son pouvoir sur lui pour le manipuler, c'est une peine. Elle doit avoir une peine d'emprisonnement. Donc, c'est ça le message. Je veux dire.
Mais il y a un message aussi qui est extrêmement important dans ce que vous dites aujourd'hui. C'est d'avoir confiance en nos enfants, puis de les croire quand ils prennent le temps de nous parler. Puis même si c'est difficile, ce qu'ils racontent, il faut les écouter.
Oui, mais il y a autre chose. Parce que tous parents, je pense qu'ils font ça. On donne toute la petite avertissement. On laisse personne toucher des parties génitales, rappelez-vous. Puis dites-nous-les si jamais ça arrive, OK? Mais c'est pas assez. Parce que quand un enfant est devant un prédateur comme ça, il fige. Il fige parce que là, il est pas habitué, puis il savait pas que cette bombe allait tomber, vous comprenez?
Oui.
Donc, il faut aller plus loin que nos enfants. Il faut les écouter. Il faut leur demander comment était leur journée, comment ça a été le tutorat, qu'est-ce qu'il a fait en tutorat. Pas juste accepter la version du professeur qui te l'envoie en texto. Vous comprenez? Demander à l'enfant, le questionner quand il revient. Pas sur de l'abus, sur ce qu'il a fait. Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'il va vous le dire. Il va dire, ben, je suis inconfortable. Elle m'a touché. Elle m'a demandé de me déshabiller. Je sais pas trop. Mais, c'est ça, c'est de vous rapprocher de vos enfants et de leur dire que, écoute, moi, la phrase là qui a marqué mon enfant, c'est ce que je lui ai dit, parce que là, oui, les petits enseignements, c'est bon, mais il faut aller plus loin. Si quelqu'un vous fait quelque chose qu'il n'oserait pas faire devant tes parents, c'est une alarme de feu. Ça veut dire, va le dire à tes parents. Tes parents vont s'en charger. Parce que sûrement, si elle ne fait pas devant moi, c'est qu'elle n'a pas le droit. Deuxième chose, des mots comme secret, je vais aller en prison, dis-les pas à tes parents, c'est plus facile pour moi de mentir à ta mère en texto que quand je la vois face à face, c'est ça qu'elle lui a dit. C'est des discours comme ça, il faut aller le dire aux parents. Ça veut dire que la personne a sait ce qu'elle fait, puis elle fait quelque chose de pas bien. Puis elle veut vous entraîner là-dedans.
Merci beaucoup d'avoir pris ce moment-là avec nous ce matin. Je pense que vous allez aider beaucoup de parents puis sauver en même temps beaucoup d'enfants. Merci vraiment.
Et merci beaucoup, M. Arcand. Je veux juste vous dire que mon enfant a l'intention ce soir de vous écrire une petite lettre courte, là, comme il a fait pour le juge, et je vais vous l'envoyer. C'est ça. Il veut vous donner, lui, son impression là, de la sentence. Donc, voilà.
Vous lui direz bonjour, puis je vais lui répondre très certainement. Merci, madame.
Merci beaucoup.
Merci.
Bonne journée à vous.
À vous aussi. Au revoir.
Au revoir.
Alors, c'était Camille, qui est évidemment pas son vrai nom, pour protéger les identités, mère de cet enfant abusé par l'enseignante, devrait dire ex-enseignante, Josiane Lévesque, qui a écopé de 6 ans de prison vendredi dernier pour avoir abusé sexuellement d'un de ses élèves qui, à l'époque, avait 8 ans. Ça a duré 2 ans. Je veux ajouter que le père était donc aussi un ami de l'accusé. C'est important de le dire. Sous le choc, il a rassuré son fils et il a dit à son fils, on va régler ça, puis t'auras plus à la voir. Et il a demandé à sa femme d'aller confronter, elle vous l'a expliqué dans l'entrevue, Josiane Lévesque. Et ce qui est important, c'est que ça s'est soldé par un choix. Elle a dit à l'ex-enseignante, « Je te reconduis chez toi et j'appelle la police pour que la police vienne te chercher. Sinon, on s'en va directement au poste de police. » Et c'est ce qu'elle a fait. Elle l'a amené au poste de police. Le policier était d'ailleurs assez étonné de voir une mère arriver, mère d'un enfant abusé, avec l'accusé. Et la personne a accepté, évidemment, de plaider coupable lors du procès. L'autre chose, j'ai reçu un mot de ce petit bonhomme. J'ai reçu ça hier soir. Je veux juste en partager un bout avec vous ce matin. puis vous allez comprendre un peu son état d'esprit parce que le juge a souligné le caractère héroïque de son témoignage, le fait qu'il a été capable de dire ce qu'il a subi. Et il se compare un peu à un super-héros. Il dit « Ce que j'aime surtout d'être un super-héros, c'est de me voir assis dans une classe parmi d'autres enfants qui ne connaissent pas mon super-pouvoir qui est le courage de dénoncer les abus. Je ne peux pas te révéler mon vrai nom ou mon identité parce que le code des super-héros me l'interdit. Je n'ai pas encore choisi mon nom de super-héros, mais je me regroupe avec tous les enfants et notre message aux pédophiles, c'est que nous sommes les intouchables. » Merci de partager mon histoire à la radio.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Hier, j'écoutais Dr. Tam, qui est la grande responsable de la santé publique au Canada, dire qu'il faut se préparer à des situations cet automne d'augmentation du nombre de cas de COVID. Et bref, c'est toujours bien de se préparer pour des scénarios comme ça. Est-ce qu'on va le vivre? On voit quand même une certaine hausse, une poussée vers des cas positifs. Et je voyais également le message du docteur Alex Carignan qui disait « Tout le monde est malade à la maison, point d'interrogation. Si c'est pas la COVID, c'est possiblement un autre virus, cette fois respiratoire. » Il est avec nous ce matin. Docteur Carignan, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Parlez-moi d'abord de ce virus respiratoire, le syncytial.
Oui, le virus respiratoire syncytial ou VRS, qui est un peu plus court, un peu plus simple. Le VRS, en fait, c'est un virus qui est avec nous depuis de nombreuses années, qu'on connaît très, très bien. Mais cette année, je vous dirais, il est de retour en force. Il circule plus précocement et il circule abondamment dans la communauté. En fait, effectivement, mis à part la COVID, c'est vraiment le virus qui est le plus présent actuellement.
Bon, alors, il se manifeste comment, ce virus-là?
C'est principalement, en fait, des symptômes respiratoires. Donc, on peut parler de congestion nasale, toux, parfois de la fièvre. Pour la plupart des gens, ça va ressembler à un rhume. Dans certains cas, disons, plus une grippe, donc des symptômes plus sévères. Ce qui nous inquiète, je dirais, c'est surtout pour les jeunes enfants. Souvent, les enfants de moins d'un an, ça peut se compliquer. Chez les patients plus âgés, les patients plus fragiles, immunosupprimés, ça peut aussi se compliquer sous forme de pneumonie. Donc, c'est quand même un virus qui est pas banal, mais qu'on connaît quand même mieux.
Est-ce que on peut confondre ce virus respiratoire avec la COVID?
Oui, tout à fait. Bon, vous avez vu les symptômes que j'ai mentionnés. Ouais. Il y a beaucoup de symptômes qui se recoupent avec la COVID, qui se recoupent avec la grippe. En fait, uniquement sur la base des symptômes, il n'y a pas de façon de bien départager les deux. Donc, pour les gens qui ont des symptômes respiratoires, évidemment, on se teste d'abord pour la COVID. Pour ce qui est du VRS, le virus respiratoire syncytial, il n'y a pas d'indication d'aller rechercher nécessairement un test. On va le rechercher à l'hôpital quand des gens consultent parce que leur état clinique est sévère, s'est détérioré. Mais de façon générale, en fait, on ne va pas tester spécifiquement pour ce virus-là, disons, pour la majorité des gens.
OK. Puis est-ce qu'on prend les mêmes mesures de précaution si on a, par exemple, des symptômes comme ça, c'est-à-dire pas aller travailler, même si on serait peut-être capable d'y aller, puis je sais pas moi, s'isoler pour un bout de temps, ou c'est différent de la COVID?
Ben, en fait, il n'y a pas de recommandation d'isolement dans la communauté liée okay. au VRS. Évidemment, c'est un virus qui est contagieux, qui se transmet de la même façon que les autres virus respiratoires. Donc oui, on peut le transmettre. Donc si on peut éviter, lorsqu'on est malade, de sortir, si on peut faire du télétravail lorsque c'est possible, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Mais de façon générale, il n'y a pas de recommandation d'isolement.
Bon, sur un autre front, Dr Tam dit qu'il faut se préparer à des situations peut-être un peu plus corsées cet automne. Votre impression à vous, c'est quoi là? C'est comme, puis je regarde autour de moi, là, il y a des cas de COVID, là, des gens qui testent positifs, qui ont des symptômes plus ou moins, ou ils sont retirés du travail pour quelques jours, puis bon. Mais dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de restrictions. Il y a des rassemblements comme hier au Centre Bell, pas grand monde qui porte le masque. Avez-vous l'impression qu'on se magasine du trouble?
Ben, si on regarde ce qui se passe en Europe, il y a effectivement eu un rebond qui semble fléchir actuellement. Donc oui, chez nous aussi, on vit un petit rebond actuellement. Mais je vous dirais qu'on ne s'attend pas à ce que ça ait l'ampleur, par exemple, de ce qu'on a vécu l'hiver dernier lorsqu'on a eu le début de la vague Omicron. Effectivement, c'est un virus qui est présent, qui est là pour rester. Je pense que la principale inquiétude vient, bon, éventuellement, si on avait un nouveau variant, c'est toujours les nouveaux variants, est-ce qu'on en a un plus transmissible, un qui échappe aux anticorps liés à la vaccination ou par une infection préalable, parce qu'actuellement, quand même, avec les vaccins qu'on a, on a quand même une bonne protection contre l'infection, contre les formes sévères, mais il y a toujours le risque qu'on ait éventuellement un variant qui ne répondrait pas, en fait, dont les vaccins ne nous protégeraient pas du tout. Mais actuellement, c'est pas ce qu'on voit, là, je dirais, dans le radar.
Merci beaucoup, Dr Carignan. Bonne journée.
Toujours un plaisir. Bonne journée.
Au revoir.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Pour atteindre des hauts niveaux dans le sport, donc aller aux Jeux olympiques par exemple, on comprend que c'est la discipline qui fait foi de tout, le talent, mais l'entraînement, le travail. Puis on découvre depuis quelques années que dans l'univers du sport de compétition comme ça, il y a comme, disons, des pratiques qui peuvent sembler normales, mais qui sont carrément abusives. Et on le découvre souvent quand on sort de cet univers. Ce matin, deux invités, Juliane Séguin et Marie-Christine Noël. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Le livre « Une médaille à tout prix, une enquête sur les dérapages du patinage artistique au Québec ». Marie-Christine Noël, je commence avec vous. Mm-hmm. Ça fait quelques années que vous pataugez dans le monde du patinage artistique.
Là. Oui, il y a deux ans, bon, j'ai co-réalisé un documentaire sur le patinage artistique. On voulait comprendre c'était quoi le climat. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs anciens Olympiens, par exemple, qui avaient connu des hauts, mais des bas aussi, troubles alimentaires, la culture de la performance, la culture d'être parfait à tout prix. Et j'ai rencontré à ce moment-là Juliane Séguin. Ça a été très long parce que j'ai fait plusieurs tentatives pour essayer de la joindre parce que Juliane était hypothéquée. C'est après plusieurs tentatives donc que j'étais capable de la joindre et là j'ai vu qu'il y avait une certaine détresse psychologique et physique. Puis je me disais, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Et là, avec ce livre-là, ben, on a décidé de raconter tout, du début à la fin, ce qu'on avait commencé à faire il y a deux ans. Et entre ça, ben, j'ai reçu énormément de témoignages qui ressemblent beaucoup à l'histoire de Juliane.
Mais on va en parler de votre histoire d'abord. Bon, vous avez commencé à patiner comme enfant, très jeune, avec des parents qui étaient très présents, qui vous accompagnaient, qui vous ont suivi. Puis rapidement, là, très jeune, donc, vous avez montré votre talent, là. Il y avait du potentiel chez vous.
Oui, absolument. Dès que j'ai mis le pied sur la glace, j'ai jamais voulu la quitter. J'ai vraiment senti un bien-être, le bruit des lames, l'aréna qui est fraîche. Tout de suite, j'ai eu l'impression de tomber en amour avec un sport dès un jeune âge, là.
Et dès qu'on avance comme ça, ça veut dire que ça prend de plus en plus de place dans notre vie. Oui. Il y a plus d'heures de glace, ça devient du sport-étude. Donc, c'était vraiment là quoi l'essentiel de votre vie, un peu les études bien sûr là, mais
oui, dans le fond c'est une décision à la fois, c'est pour ça qu'on s'en rend pas toujours compte de ce qu'on accepte, puis les limites sont pas tout le temps déterminées. Fait qu'on on accepte de s'entraîner à tous les jours, on accepte d'ajouter des entraînements, on accepte d'aller s'entraîner ailleurs dans un nouveau gymnase, on a un autre cours de stretching, on a un cours de ballet, ça s'accumule très rapidement, tu t'en rends pas compte au quotidien. Finalement la première chose que tu sais c'est que le samedi matin tu es brûlé puis tu veux plus rien faire, mais reste que c'est tellement un sport complet et très très plaisant à faire aussi. Fait que c'est comme une c'est paradoxal tout ça là.
Vous avez patiné en couple.
Oui.
On va y revenir tantôt, puis vous aviez un entraîneur au départ pour vous accompagner.
Oui.
À quel moment vous décidez de changer d'entraîneur?
Au moment où je suis tombée dans le sport-études, dans le fond, mon premier entraîneur pouvait pas se permettre de quitter son emploi pour m'entraîner de 13h à 5h l'après-midi. Donc, je me suis dirigée vers quelqu'un qui était plus âgé, puis qui avait de l'expérience.
Comment vous la trouvez? On la recommande, on vous suggère, elle?
Oui, parce que moi, je voulais faire du couple, la paire. Il y a pas beaucoup de gens au Québec qui enseignent cette discipline-là. Donc, il y en avait deux, en fait. On les connaissait de nom. Puis, on me les a référés simplement par mon entraîneur qui m'a entraînée dès mon jeune âge.
OK. Parlez-nous de cette rencontre avec José.
Oui. Tout d'abord, je veux vraiment préciser que c'est une femme que j'ai adorée. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai accepté beaucoup de choses et que j'ai pas déterminé mes limites, ils étaient où. À ce moment-là, elle a jamais fait d'abus physique, seulement elle jouait avec ma tête.
Mais là, c'est parce que c'est important ce que vous dites là.
Oui.
OK, elle m'a jamais frappé, mais elle a joué dans ma tête.
Oui. C'est une culture de peur.
OK, mais je vais résumer parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans votre livre, Marie-Christine Noël. Là. D'abord, c'est une forme de cruauté mentale de mettre de la pression puis de dire quand vous pesez 103 livres que vous êtes grosse puis de vous faire sentir mal puis tu veux pas gagner puis tu me fais honte. Puis c'est tout le temps ça, là, ou presque.
Oui, ben en fait, c'est dès les débuts des compétitions internationales. C'est à 14 ans, je me suis fait dire si ta pratique est pas assez bonne, j'appelle le directeur de haute performance, puis on n'ira pas faire les clowns à l'autre bout du monde.
Veux-tu vraiment gagner? Veux-tu vraiment aller aux Jeux Olympiques?
Exactement. C'est oui. Toute ma vie a été consacrée au patinage artistique. Voyons donc que je veux pas être là.
Est-ce que c'est un cas unique ou pas?
Non, pas du tout. Puis c'est ça que je raconte aussi dans le livre. Tu sais, c'est pas une autobiographie sur Juliane. C'est vraiment une enquête. Puis j'ai parlé à d'autres patineurs. Puis souvent, je reviens là-dessus en disant, ben il y a d'autres patineurs qui m'ont raconté la même chose. T'es-tu sûr que t'as mal? Ça, on leur répète souvent. T'es-tu sûr que t'as mal? Parce qu'il faudrait que tu y retournes.
Mais j'avais fait des commotions cérébrales.
Ouais, exactement.
Et c'est la pire blessure parce qu'on ne la voit pas. Mm-hmm. C'est la communication qui prime et je n'ai pas communiqué avec mon entraîneur pour dire que j'avais des nausées, j'avais peur. Donc, je les gardais pour moi puis je les gérais seule.
Elle n'a pas eu un gun sur la tempe. Elle a accepté d'y retourner. Mais quand même, on y mettait tellement de la pression parce qu'on dépasse la ligne. C'est ça qui arrive. C'est qu'on veut bien les encadrer, mais on dépasse la ligne puis on leur dit, ben là, on a une compétition dans 2 semaines, dans 3 semaines. Ben, il faut y retourner. T'es-tu sûr que t'as mal? Es-tu correct? On y va. Et Juliane, elle a accepté parce qu'elle fait tellement confiance puis on explique le lien qui se tricote à travers les années. T'sais.
Parce que si vous dites qu'il y a deux personnes qui principalement font ça, là, José Picard et une autre personne, ça veut dire que sa méthode n'est pas différente avec les autres qu'elle l'était avec vous?
Ah, ça, c'est sûr que non. C'est sûr, je ne peux pas témoigner pour les autres, mais effectivement, là...
Mais ça veut dire qu'on accepte pendant des années de vivre un traitement comme ça. Ça ne vous a pas écœuré du sport? Vous n'êtes pas dit... Moi, j'ai des témoignages parfois dans le hockey où des jeunes ont dit, moi, là, bye, c'est terminé, c'est pas vrai que je m'en vive ça.
Bien, c'est sûr, j'ai eu une phase de frustration, mais il ne faut pas oublier qu'on avait tous les deux le même but commun, qui était de se rendre aux Olympiques. Donc, à partir de là, moi, je me posais plus de questions, puis je me disais, je vais me comparer à un militaire. Je vais pas me comparer à celui qui patine pour le plaisir. Donc, à partir de ce moment-là où j'ai fait ce choix-là, ben j'ai pas eu le choix d'accepter ce qu'elle m'offrait.
Vous êtes allé aux Jeux olympiques.
Oui.
Vous avez fini 9e.
Oui.
Puis je le disais tantôt, des commotions cérébrales et tout ça. Vous étiez en couple avec Charlie.
Oui.
Vous n'étiez pas amoureux de Charlie.
Non.
Mais vous étiez un couple impeccable sur la patinoire.
Oui. Ouais.
Vraiment, c'était magnifique. Ils ont fini 9e à Pyeongchang. Puis sincèrement, si Julianne, sa santé avait été mieux, là, elle aurait été à Pékin cette année, en février, avec Charlie Bilodeau.
Mais ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu
ça. Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ça a cassé entre vous et Charlie Bilodeau?
Dans le fond, c'est pas tout à fait entre Charlie et moi. C'est vraiment en plus, je pense, Charlie qui voulait tirer la plug. Il n'en pouvait plus d'un climat toxique. Il savait que j'avais une emprise avec cet entraîneur-là, puis j'avais pas l'énergie de m'en sortir. Donc, il a pris la décision et sincèrement, je suis super reconnaissante aujourd'hui. Je comprends pourquoi il l'a fait. Et il m'a sorti d'un cercle que j'aurais pas eu l'énergie. Mais aujourd'hui, je suis en très bonne relation avec Charlie et il était présent hier au lancement du livre.
Puis comment vous vous en êtes sorti? Ça a été quoi l'élément qui a fait dire là, assez?
Tous les symptômes de commotion sont revenus. Parce que je les ai tellement endurés et cachés au quotidien que j'avais déjà le bras dans le tordeur. Mmh. J'ai jamais été capable de m'en sortir. Il fallait que j'arrête mon quotidien, que je le mette sur pause et que je prenne le temps de me reposer, d'avoir une médication avec une neurologue. Fallait vraiment, j'ai eu 2 ans où j'ai pris soin de moi. J'en avais vraiment besoin, puis c'est vraiment là que ça a cassé. Donc, en 2020.
Mm-hmm. Puis aujourd'hui, comment vous allez?
Tellement mieux. Il reste encore beaucoup de choses à améliorer. Je peux pas regarder les écrans. Je suis très limitée, mais heureusement, j'ai recommencé à conduire et à travailler quelques heures dans le monde du patinage, avec une équipe formidable, qui ont une belle vision.
Qu'est-ce que vous faites dans le monde du patinage?
Je me suis posé la question moi-même, mais je pense que j'ai goût de faire partie du changement. Comme je dis, j'ai une belle équipe autour de moi, une belle vision, des athlètes qui ont le goût d'apprendre. Ils se confient à moi. Je pense que je sers de mentor rendu au point où j'en suis, puis je suis contente.
OK. Parce que la question, puis je la pose à vous aussi, là. Ouais. Il y a des parents qui sont prêts à fermer les yeux pour que leurs enfants se rendent très, très loin dans le sport d'élite, là. Ouais. Puis qui sont prêts à endurer que l'entraîneur soit très dur, puis ça doit prendre ça pour réussir. Vous dites quoi à ces parents-là qui disent, ben, écoute, là, elle n'a pas été la personne la plus gentille, là, mais pour t'amener, ben, pour te pousser, il fallait faire ça.
Ben, j'essaie de dire aux jeunes d'être maîtres de leurs décisions et de leur succès. Je me maintiens sur cette ligne-là, puis j'essaie de les guider le plus sainement possible, puis on les retourne à des ressources aussi maintenant. Mais c'est sûr que c'est épeurant, puis je pense que si j'avais un enfant présentement, ouais, je le mettrais pas dans le patin.
Non, hein?
Non.
Faire confiance aussi à l'intelligence des athlètes puis des jeunes. S'ils vous disent que ça va pas, ben ça va pas. Posez des questions aussi.
Mais
le plus
physiquement,
possible.
Ça se sentait. Je veux dire, quand faisiez vomir, manger, pas manger, jeûner pratiquement pour.
Ben Julianne n'a pas eu de troubles alimentaires, mais pour les autres, là, les autres patineurs que j'ai rencontrés dans les dernières années, oui, ça se cachait, là, et c'était capable. C'était les jeunes étaient vraiment très bons pour se cacher.
Mais vous aviez pris 10 livres à m'amener après un voyage. Puis là, vous faites engueuler pour ça, là.
Oui.
Un plan nutritionnel à 13 ans. Pour Julianne.
Puis j'ai changé. On n'a jamais été satisfait du plan nutritionnel. Puis je pense que c'est ça aussi qui m'a le plus affectée, c'est qu'on changeait tout le temps de nutritionniste pour que je sois donc parfaite. Et j'étais déjà parfaite.
Mais oui.
Elle réussissait. Je le dis aujourd'hui, je pense, à ce moment-là, je le disais pas, mais je pense que j'étais vraiment bonne.
Mm-hmm. On aurait dû lui faire confiance. C'est ça qu'on aurait dû faire. Quand elle a dit que ça allait pas, ça allait pas. Elle serait à Pékin, peut-être même, cette année.
Êtes-vous, je dirais, peut-être pas soulagé, mais de voir que de plus en plus d'athlètes qui parlent de problèmes de santé mentale, par exemple.
Oui.
Qu'ils disent, là, ça va pas. Jonathan Drouin, on l'a vu au tennis, on l'a vu aux Jeux olympiques. Ce qu'ils disent, là, non.
Je pense qu'on est sur la ligne en ce moment. On sait pas sur quel pied danser, puis on essaie de rendre la chose plus saine, mais en même temps, le sport d'élite, même moi encore aujourd'hui, faut que j'y pense, puis que je regarde ça, j'analyse, puis voir si elle est où, la ligne fine.
C'est un sport jugé aussi, hein?
Oui, ça, c'est une autre affaire.
Ouais.
Il n'y a pas un chrono, vous, là, c'est une appréciation.
Oui,
de tout.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Beaucoup.
Marie-Christine Noël, Julianne Séguin, une médaille à tout prix, une enquête sur les dérapages du patinage artistique au Québec.
Vous écoutez Balado du dimanche, une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à l'Essentiel de Paul Arcan sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine vers midi. Après la pause, ça tient la route avec Benoît Charrette.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.